Chapitre 2. Tous les matins, à 9h05, quelque temps qu'il fît, que ce fût fait ou non, M. Ravenot tournait le coin de la rue de la Victoire, achetait un croissant de 2 sous chez le boulanger qui fait l'angle de la rue de la Chaussée-d'Antin, et à 9h sonnant, il accrochait son chapeau au porte-manteau du bureau. Mais ce jour-là, pour la première fois de sa vie, il était en retard, et ce fut à 10h seulement qu'il s'assit dans son fauteuil de cuir vert. « Personne n'est encore venu me demander, » fit-il avec une certaine anxiété, en jetant un regard du côté des employés réunis autour de lui. « Personne, monsieur, » répondit l'un d'eux. Monsieur Ravenot épongea son front, qui était couvert de sueur, bien qu'il fît grand froid dehors, puis s'asseyant à son bureau, il parut absorbé par ses additions. En réalité, le pauvre caissier songeait à toute autre chose qu'aux opérations du doigt et avoir. Les chiffres dansaient devant ses yeux comme les pailles légères que le vent fait tourbillonner. Il arrivait de la Banque de France. D'après les renseignements qu'on lui avait donnés, M. Lacéda avait apporté 8 jours auparavant une somme de 1 200 000 francs en compte courant. Par suite des dépôts précédents faits par la maison de banque, son compte se montait alors à 2 500 000 francs environ. Or, quelques jours après, quelqu'un s'était présenté avec 2 chèques signés de M. Lacéda, l'un de 500 francs, l'autre 2 500 000 francs. Ces chèques furent représentés au caissier et il reconnut parfaitement la signature de M. Lacéda. Le mystère étrange de cette affaire tourmentait le pauvre M. Ravenot. Comment expliquer ces retraits de sommes si importantes faites par un employé au moyen de chèques signés par M. Lacéda? Avait-il, avant de mourir, voulu disposer de sa fortune en faveur d'étrangers? Comment concilier de cette singulière résolution avec la tendresse qu'il portait à ses enfants? M. Ravenot savait parfaitement qu'aucun employé de ses bureaux n'avait été chargé de cette mission. Quel était donc l'homme qui s'était présenté à la Banque de France, se disant envoyé par M. Lacéda? Ces réflexions furent interrompues par un coup léger frappé à la vitre du guichet derrière lequel se tenait le vieux caissier. Il tressaillit. « Où serait-ce déjà lui ? » murmura-t-il. Il leva en tremblant la vitre dépolie. Un petit vieillard, portant des lunettes bleues et des cheveux blancs très ébouriffés, se tenait en face de lui dans une attitude modeste. M. Ravenot se rappela avoir vu cet individu le matin même à la Banque de France. Il était à côté de lui, attendant son tour, tandis qu'il demandait des renseignements sur les dépôts vers M. Lacéda. Pardon, monsieur, dit le nouveau venu, pardon si je vous dérange. J'appartiens à la préfecture de la Seine et je suis chargé du recensement. Je désirais avoir les noms et les adresses des employés que vous avez ici. » En même temps, il tira de sa poche un long cahier couvert de papier bleu. Comme il faisait assez sombre de l'autre côté du guichet, M. Ravenot engagea le vieil employé à entrer dans le bureau. Il le fit asseoir à une table et lui donna les renseignements qu'il demandait. « Tous ces messieurs sont ici, n'est-ce pas ?» interrogea l'employé lorsqu'il eut fini d'écrire. « Oui, oui, monsieur, aucun n'est absent. Je vous remercie, monsieur. » Le petit vieillard se retira en saluant très poliment, et avant de fermer la porte, il examina encore une fois de son œil vif les commis réunis dans le bureau. Arrivé sur le palier, M. Bidache retira sa perruque, qu'il plia soigneusement, et la remit dans sa poche avec ses lunettes bleues. « Non, décidément, pensa-t-il, ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher. Je m'en doutais bien. Oh, nous avons affaire à un audacieux coquin. » Il fut heurté dans l'escalier assez sombre par un homme de forte taille qui montait vivement. Il s'excusa et s'effaça contre la muraille pour le laisser passer. Cet homme entra d'un pas délibéré dans l'antichambre qui précédait le bureau et frappa avec sa canne contre le guichet du caissier. C'était un grand gaillard d'une trentaine d'années, aux épaules larges, au teint vif, dont la physionomie respirait le courage et la décision. M. Ravenot leva la vitre. Lorsqu'il vit en face de lui le visage de ce jeune homme, il pâlit et ses mains, qu'il appuyait sur son bureau, se mirent à trembler. En quittant la maison de la rue de la Chaussée-d'Antin, il sauta dans une voiture qui passait et se fit conduire chez un avocat de ses amis qu'il consulta longuement sur ce qu'il avait à faire. Puis il rentra à l'hôtel Mirabeau où il habitait et écrivit quelques lettres urgentes. Il se livrait à cette occupation depuis une heure environ lorsqu'un domestique de l'hôtel vint le prévenir qu'une dame désirait lui parler. Assez surpris de cette visite, Patrick demanda comment s'appelait cette personne. On lui dit qu'elle ne s'était pas nommée. Il vit bientôt paraître une jeune femme vêtue de deuil et dont un voile de crêpe cachait le visage. Lorsque, après s'être assise sur l'invitation du jeune homme, elle releva son voile, Patrick fut frappé de l'admirable beauté de ses traits ravagés par la douleur. « Monsieur, dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait d'affermir, je dois d'abord vous dire mon nom, je suis la fille de M. Lasséda. » Patrick eut un geste de surprise. « Oui, notre vieil ami M. Ravenot est accouru me prévenir après l'entretien que vous avez eu ensemble ce matin. Il m'a tout dit. Alors je suis venu vous trouver, et d'abord parce que je ne veux pas que vous conserviez un seul instant l'idée que mon père a pu agir envers vous d'une façon malhonnête, et ensuite parce que je désire que vous sachiez bien qu'à partir de ce jour, les enfants de M. Lasséda n'ont rien à eux. Tout ce que possédait leur père appartient désormais à ses créanciers. » La beauté de Jeanne, la dignité de son attitude, parurent faire impression sur le jeune Irlandais. La démarche qu'elle tentait auprès de lui, en un pareil moment, ne pouvait que le toucher. S'il avait une nature ardente, pleine de fougue et de violence, son cœur était bon et toujours accessible aux sentiments élevés. « Il est vrai, mademoiselle, oui, dit-il avec courtoisie, il est vrai que j'ai parlé tout à l'heure très vivement au caissier de la maison de banque. Mais vous me comprendrez et vous excuserez mon émotion, j'en suis sûr, quand vous saurez que ces fonds déposés par moi chez votre père ne m'appartenaient pas. » « Quoi, monsieur ? Oui, c'était un dépôt sacré et confié à mon honneur. Cet argent, je puis bien vous le dire, en vous demandant de me garder le secret, cet argent provient de souscriptions recueillies en France pour nos frères d'Irlande malheureux. Et comme je n'étais pas fixé sur la destination que je devais lui donner, j'avais cru bien faire en le déposant dans une maison de banque, et je n'en connaissais pas qui me parut mériter plus de confiance que celle de M. Lasséda. Or, j'ai reçu il y a deux jours du comité de notre ligue l'ordre d'envoyer sur le champ, à une destination que je ne puis pas révéler, tous les fonds qui ont été centralisés par moi comme trésorier de la section française. C'est pour cela que je demande avec instance le remboursement de cette somme importante. C'est pour cela que je dois prendre sans tarder toutes les garanties possibles pour sauvegarder le dépôt qui m'a été confié. Monsieur, dans ce moment, je ne puis vous donner aucune assurance positive. Mon père a été victime d'un assassinat et d'un vol. Ceci, je vous le jure, dit-elle avec force. En ce moment, la recherche, l'assassin, le voleur, on le trouvera, j'en suis sûr, car Dieu ne voudra pas qu'une pareille infamie reste sans punition. Mais ces recherches pourront être longues, monsieur. Je viens vous supplier de ne pas ajouter à notre douleur, à nos embarras si graves, en déposant une plainte qui ne pourrait que compromettre les intérêts que vous voulez défendre, car il faut que la liquidation des affaires de mon père se fasse dans les meilleures conditions possibles. « N'achevez pas, mademoiselle, dit Patrick O'Kedy, qui avait vite jugé la noble nature de Jeanne. J'ai foi en votre parole, et je suis certain désormais que mes intérêts ne peuvent être dans de meilleures mains que les vôtres. » Puis, se levant et marchant vivement dans la pièce, « Et pourtant, continua-t-il, ce retard me désespère. Je vais être obligé peut-être de rester un mois, deux mois à Paris, Et pendant ce temps, Fitzgerald, il s'assit brusquement et mit ses deux mains dans son épaisse chevelure avec un geste de désespoir. Après un instant de silence, il releva la tête et, remarquant l'expression étonnée qui se lisait sur le visage de la jeune fille, « Veuillez excuser ma vivacité, dit-il, mademoiselle, mais un pareil malheur ne pouvait m'arriver à un plus fâcheux moment. J'allais partir pour le Sénégal afin d'y chasser le lion et la bête fauve. Mon ami et mon rival, John Fitzgerald, s'est mis en route il y a 8 jours environ. Or, j'ai engagé un important pari avec lui, une somme de 5 000 livres sterling qui doit appartenir à celui de nous deux qui tuera le plus grand nombre de ces animaux. Et j'ai une revanche à prendre, car l'an dernier, John Fitzgerald m'a distancé d'une panthère. L'argent m'importe peu, mais mon honneur est engagé. » Puis, s'apercevant que cette contrariété, si vive qu'elle fût, ne pouvait guère toucher la jeune fille dans les tristes circonstances où elle se trouvait, « Non, pardonnez-moi, mademoiselle, dit-il avec douceur, oui, j'ai la mauvaise habitude de parler souvent comme un fou et sans réfléchir, mais je vous assure que je suis un bon diable. Je compatis bien à votre douleur. Je connaissais votre pauvre père et je l'estimais beaucoup. Vous pouvez croire que si cet argent m'appartenait, je m'occuperais peu de le retrouver, mais vous comprenez l'intérêt puissant qui me guide. « Dieu vous remercie, dit Jeanne en se levant. Puissent tous ceux qui ont eu des relations d'affaires avec mon père se montrer aussi généreux que vous. » Elle baissa son voile, s'inclina devant le jeune homme qui la salua respectueusement et sortit un peu réconfortée par cette visite qu'elle n'avait faite qu'en tremblant. En revenant, elle vit dans l'avenue de Villiers 2 hommes qui s'en retournaient portant une civière vide. Un sinistre pressentiment lui serra le cœur. Au moment où elle descendait de voiture à la porte de l'hôtel, elle fut reçue par Raoul de Vivarol et par le comte son père. « Armez-vous de courage, ma pauvre Jeanne, dit Raoul en la soutenant. « On vient de le rapporter, n'est-ce pas ? Murmura la jeune fille qui se sentait défaillir. « Oui. » Elle s'abandonna au bras de son fiancé et se fut plus morte que vive qu'elle monta l'escalier. Monsieur de Vivarol les suivait. Il avait la figure ennuyée d'un homme qui fait une forte désagréable corvée. Il était venu avec son fils vers midi pour prendre des nouvelles de Jeanne. Ils étaient dans la maison depuis 5 minutes lorsqu'on rapporta le corps de Monsieur Lasséna. Raoul voulut veiller à tous les préparatifs pour épargner à Jeanne, lorsqu'elle rentrerait, ce pénible souci. Ensuite, il désira attendre la jeune fille, car il était difficile qu'il ne l'assistât point dans un pareil moment. Mais l'heure s'avançait, et M. le comte de Vivarol, qui était un homme d'habitude régulière et avait grand soin de son estomac, songeait avec ennui qu'il n'avait pas encore déjeuné. De l'autre côté, il ne pensait pas qu'il fût décent de laisser son fils seul avec cette jeune fille. Il se disait, pour se consoler, que la mort de M. Lasséna allait augmenter dans une grande proportion la dot de la fiancée de Raoul. Cette fortune dont il était si souvent question lorsque M. le comte et Mme la comtesse, assis au coin de leur feu dans leur modeste 5e, faisaient des projets pour leur vieillesse et se voyaient déjà confortablement installés au foyer de leur fils. Maintenant, ils habiteraient l'hôtel de la rue d'Oléfonds. Et tandis que Raoul s'occupait de faire placer sur un lit d'une blancheur immaculée le corps de M. Lasséna, le prévoyant gentilhomme visitait curieusement les chambres. Il avait déjà choisi, dans la rotonde de l'hôtel, une bonne exposition au sud-ouest, celle qu'il comptait occuper avec la comtesse, son épouse. Ce fut encore pour la pauvre Jeanne une terrible épreuve lorsqu'elle se retrouva en face de son père. Le grand froid qu'il faisait et les précautions prises par les hommes chargés de ce triste métier avaient admirablement conservé le corps. Monsieur Lacéda semblait dormir. Jeanne eut le courage d'aller déposer un long baiser sur ce front glacé, puis elle le regarda fixement, comme si elle eût voulu demander à ce mort l'explication du mystérieux secret qui l'emportait dans la tombe. En même temps, l'héroïque jeune fille faisait le serment de consacrer sa vie à défendre cette chère mémoire et à la venger. Quand elle sortit de la chambre funèbre où Raoul de Vivrolles l'avait accompagnée, « Ah, maintenant, dit-elle, je n'ai plus que vous au monde. Aimez-moi, Raoul, aimez-moi. » Et elle s'attachait à lui comme le naufragé à l'épave qui doit le sauver. « Oui, je vous aime, dit-il avec tendresse, et je vous jure que je vous ferai oublier, par le bonheur que je vous donnerai, tout ce que vous aurez souffert en ces tristes jours. Ma vie entière vous appartiendra. Je la passerai à vous adorer. » « Oh, parlez-moi, parlez-moi, j'ai besoin de vous entendre. » Et elle s'assit près de lui sur un canapé, lui prenant les mains, attachant ses regards aux siens, avide de chercher dans les joies de l'avenir une consolation à ses poignantes douleurs. Il lui parlait doucement, dans son joli langage d'homme du monde, très correct et très châtié. Elle avait penché sa tête sur son épaule et elle soupirait, encore, encore, ne se lassant pas de l'entendre lui dire qu'il l'aimait. À l'autre bout du salon, étendu dans un fauteuil, M. le comte de Vivrolles comprimait avec la main son estomac où il commençait à sentir des tiraillements sérieux. « Et Georges, vous ne me parlez pas de Georges, » dit-elle tout à coup en interrompant les paroles d'amour de son fiancé. « Ah, que c'est mal à moi de ne pas avoir demandé tout de suite des nouvelles de ce pauvre enfant. »« Oh, il va aussi bien que possible, » dit Raoul. « Il ne fait que parler de vous. »« Pauvre petit, je me sens si brisé que je ne puis aller le voir aujourd'hui. »« Demain, peut-être, demain, » reprit-elle en frissonnant. Et elle dirigea ses regards pleins d'angoisse vers la chambre où reposait son père. « Ce sera pour demain, n'est-ce pas ? » poursuivit-elle après un long silence. « Vous aurez la bonté de vous occuper de tout. Vous ferez mettre un avis dans les journaux pour prévenir ses amis. Quant à Georges, vous ne lui direz rien encore. Je me charge de le prévenir moi-même, tout doucement. » Monsieur de Vivrolles s'était levé, il marchait dans le salon en comptant ses pas. « Mais je suis égoïste, » reprit Jeanne avec un triste sourire. « Je vous retiens près de moi. Pardonnez-moi, monsieur, » dit-elle en s'adressant au comte. « Adieu, Raoul. Revenez me voir demain matin de bonne heure, n'est-ce pas ? J'aurai besoin de vous dans un pareil moment. » Le comte, qui détestait se lever avant 10 heures, pinça les lèvres en entendant cette invitation. Raoul prit congé de sa fiancée, qu'il embrassa sur le front, en la suppliant d'avoir du courage. Oh, du courage, certes, elle n'en manquait point, la pauvre enfant, et n'avait pas besoin, pour montrer l'héroïque force de son âme, des encouragements de M. le vicomte Raoul de Vivrolles. Elle remplit jusqu'au bout son douloureux devoir avec une résignation admirable. Pendant toute la nuit, elle veilla son père. Le matin, elle assista aux déchirantes opérations de l'enlevissement et elle accompagna le corps jusqu'à l'église et au cimetière. M. Lacéda comptait un grand nombre d'amis à Paris et comme le bruit de sa ruine n'était pas encore répandu, il y eut beaucoup de monde à ses funérailles. Bien que ses yeux fussent obscurcis par les larmes et qu'elle pût à peine distinguer les personnes qui vinrent la saluer, Jeanne embarqua M. Patrick O'Kennedy, dont les larges épaules et la tête énergique dominaient ce qui l'entourait. Le jeune Irlandais s'approcha d'elle avec intention et lui donna une solide poignée de main. Elle rentra seule chez elle. Elle n'avait voulu personne pour l'accompagner, pas même Raoul, qui ne l'avait pas quitté depuis le matin et qui avait été parfait de soins et d'attention. Elle resta enfermée dans sa chambre toute la journée, et les domestiques eux-mêmes ne l'approchèrent pas. Elle avait besoin de repos pour calmer ses nerfs, surexcités par de si terribles secousses, et envisager avec sang-froid l'avenir. Le lendemain matin, elle alla voir Georges. Elle avait lavé ses yeux rougis avec de l'eau fraîche, et les traces de larmes n'y paraissaient presque plus. Elle ôta son chapeau couvert de crêpe. Madame de Virval lui prêta un manteau de couleur qui dissimula sa robe noire. Il lui fallut encore bien du courage lorsque l'enfant lui sauta au cou et l'embrassant avec passion lui cria tout en larmes « Emmène-moi, emmène-moi, ma petite sœur, je veux voir papa !» L'existence de Georges auprès de Madame de Vivrol, toujours froide, guintée et précieuse, ne ressemblait guère à la vie heureuse qu'il menait dans la maison de son père. Comme la comtesse craignait la fatigue et avait horreur du moindre mouvement qui aurait pu déranger l'édifice savant de ses boucles blondes, l'enfant était confié toute la journée à l'unique bonne de la maison, toujours harassée d'ouvrage et d'une humeur de bouledogue. L'arrivée de Jeanne fut pour lui une délivrance. Il ne voulut plus la quitter, il s'attachait à elle, la suppliant de l'emmener. « Demain, demain !» dit la jeune fille, qui ne pouvait soupçonner, dans la générosité de son cœur, la froideur que l'on témoignait au pauvre orphelin en cette noble maison. « Demain, je te promets que je viendrai te chercher. » Elle fut obligée de s'arracher de ses bras. Madame de Vivrol, qui avait supporté cette scène avec impatience, bien qu'elle n'eût rien perdu de son grand air et de sa dignité, prit l'enfant par le bras dès que Jeanne fut sortie et le poussa dans la cuisine. Il tomba sur une chaise en sanglotant. Mais la bonne était de fort méchante humeur, parce que dans la journée, Madame lui avait fait, de son ton pincé, une observation sur la consommation trop rapide du beurre. Les pleurs de Georges lui portèrent sur les nerfs, et après lui avoir commandé de se taire, voyant que l'enfant n'obéissait pas, lui donna son soufflet. Georges pâlit sous ce coup, le premier qu'il eût jamais reçu, puis étonné, cessa un instant de pleurer. Ensuite, il laissa tomber sa tête accablée, et appuyant son front sur ses bras croisés, il poussa des gémissements sourds. En rentrant, Jeanne trouva M. Ravenot qui l'attendait. « Vous n'avez pas voulu vous tourmenter hier, mademoiselle, vous étiez si malheureuse, » lui dit le caissier d'un ton de pitié. « Et puis les mauvaises nouvelles arrivent bien assez vite. » « Qu'y a-t-il donc encore, mon pauvre monsieur Ravenot ?» dit Jeanne en s'approchant avec bonté du vieillard, comme si plus qu'elle-même elle eut besoin d'être consolée. « Il y a que décidément nous ne pouvons satisfaire au paiement. Tous les jours, ce sont de nouveaux affronts qui nous arrivent. S'il ne survient pas quelques miracles, nous serons obligés de déclarer la faillite. Voici une petite liste que j'ai faite de nos créanciers les plus pressants. » Il lui remit une feuille de papier sur laquelle une dizaine de noms étaient écrits. « Messieurs Abraham, Lévy, Tavard, Marteau, Clovis Emery, Raoul Braque, » commença Jeanne. Lorsqu'elle eut parcouru la liste, « Mais tous ces messieurs étaient des amis de mon père, » s'écria-t-elle. « Plusieurs même ont dîné à la maison y est bien souvent. Laissez-moi cette liste, monsieur Ravenot. » « J'irai les trouver. »« N'osez pas vous le demander, mademoiselle, » dit le caissier. « Mais vous avez si bien réussi avec ce jeune Irlandais, notre plus fort créancier. »« Oui, mais celui-là connaissait à peine mon père, mais messieurs Tavard, Brick Lévy, ses amis intimes. »« Mais il s'agirait seulement de solliciter un délai, afin que je puisse liquider quelques affaires et quelques positions à la bourse. » Il me semble impossible que la fortune de monsieur votre père ait ainsi disparu. Mais il nous faut le temps d'éclairer ce mystère et d'aviser aux moyens de liquider dans les meilleures conditions possibles. Dès le jour suivant, Jeanne commença les démarches. Elle alla d'abord trouver M. Tavard, ancien agent de change, fort riche et qui était un des meilleurs amis de son père. Il la reçut très bien, mais dès qu'elle lui eut exposé l'objet de sa visite, la figure de M. Tavard devint soucieuse et sa politesse se refroidit sensiblement. « J'ai 100 000 francs déposés chez votre père, dit-il. J'ignorais certainement que ses affaires fussent mauvaises. Mais, monsieur, je viens de vous expliquer qu'il a été victime d'un crime abominable. »« Oui, j'ai bien entendu, je veux bien le croire, » reprit-il d'un ton qui prouvait qu'il n'était pas dupe de cette histoire. « Mais vous comprenez, mademoiselle, que 100 000 francs, ce n'est pas un sou. Je ne puis me résigner à cette perte. » Et à toutes les supplications de Jeanne, aux souvenirs d'ancienne amitié qu'elle invoquait, M. Tavard répondait « Oui, assurément, votre père était mon ami, mais les affaires sont les affaires. Je verrai, je ne puis pas m'engager. Cette somme était une partie de la dot de ma fille. » Jeanne n'en put tirer aucune promesse qu'il se prêterait à des arrangements pour faciliter la liquidation des affaires de son père. Alors, ce fut pour la pauvre enfant le commencement de cruelles souffrances. Elle dut passer toutes ses journées en course, revenant 2 ou 3 fois dans la même maison, avant de pouvoir être reçue, attendant sur un banc d'antichambre au milieu de gens qui la dévisageaient curieusement. Et lorsqu'elle expliquait l'objet de sa visite au Bruc, au Gérard, à ces princes de la finance, qui n'auraient eu peut-être qu'à lever le doigt pour sauver l'honneur de son père, elle se heurtait à la même indifférence, froidement polie. Ces gens qui étaient venus chez elle, qui avaient admiré sa beauté, qui même dans les bals du commencement de l'hiver s'étaient montrés les plus empressés autour d'elle, la recevaient maintenant avec leur dignité hautaine de parvenus qui ne connaissent et n'admettent que le succès. Jeannelin Céda, fille d'un millionnaire, recevait quelques jours auparavant tous leurs hommages. Et la pauvre fille qui se présentait maintenant devant eux, timide et suppliante, n'avait plus droit qu'à un dédain poli. Souvent même, elle avait à lutter contre la colère froide de l'homme qui sent ses intérêts menacés et qui veut employer tous les moyens pour les sauver. Parfois aussi, elle devinait, derrière les réticences de quelques-uns, le honteux marché qu'ils étaient sur le point de lui proposer. Car ce n'était pas impunément qu'une jeune fille d'une aussi grande beauté pouvait pénétrer seule dans l'intimité des gens sans scrupules, qui auraient peut-être consenti à un sacrifice d'argent, si ce sacrifice eût pu être récompensé d'une autre manière. Que de déboires, d'humiliations, de douleurs elle eut à supporter pendant les 5 mortelles journées que durèrent ces démarches infructueuses. Elle alla jusqu'au bout pourtant, toujours soutenue par l'idée de sauver l'honneur de son père et de garder intact et honorable ce nom que son cher frère Georges devait porter un jour. Car pour elle-même, que lui importait la perte de sa fortune? N'allait-elle pas bientôt trouver un protecteur, aimant et fidèle? Le luxe dans lequel elle avait vécu jusqu'alors, elle y tenait peu. Il lui semblait d'ailleurs qu'après les extrêmes souffrances de cette terrible semaine, il n'y aurait plus pour elle ni joie ni plaisirs au monde. Et elle songeait à se faire une vie calme et modeste auprès de celui qu'elle avait choisi. Lorsqu'il eut accompli tout ce qu'il était humainement possible de faire pour sauver la situation de son père, lorsqu'elle vit que la ruine était inévitable, elle résolut de vendre immédiatement l'hôtel et les meubles de la rue d'Offémont, afin de ne pas rester un instant de plus dans des biens qu'elle considérait comme appartenant désormais aux créanciers de son père. Elle chercherait un petit logement où il irait vivre avec Georges en attendant l'époque de son mariage. Pendant les 5 jours qu'avaient duré ces épuisantes démarches, Raoul de Villerolles s'était présenté chez elle 2 fois seulement. Il ne l'avait pas rencontrée. Elle-même n'avait pu aller voir Georges que pendant 1 heure, un matin. Elle avait hâte de revoir son fiancé et son frère, ces 2 êtres sur qui désormais toutes ses affections allaient être concentrées. Aussi fut-elle heureuse lorsque, le soir même du jour où elle avait fait la dernière démarche auprès de gens d'affaires, François vint lui annoncer que Madame Duvirol l'attendait au salon. Elle pensait que Raoul devait l'accompagner, mais sa surprise fut grande lorsqu'il vit son frère assis auprès de la comtesse. Il lui vint aussitôt la pensée que Georges pouvait être indisposé et qu'on le lui ramenait pour cette raison. Aussi, avant même d'embrasser l'enfant et de saluer Madame de Vivrolles, Jeanne s'écria tout émue. « Georges, tu n'es pas malade ?»« Non, petite sœur, » répondit-il. Il se leva et vint l'embrasser en la serrant dans ses bras plus fort encore que de coutume. « Ah, j'ai eu peur, » dit Jeanne en regardant Madame de Vivrolles, comme pour lui demander une explication. « Je m'attendais si peu à te voir. » Elle fut frappée de l'air sérieux de l'enfant et vit que ses yeux étaient rougis par les larmes. « Jeanne, » dit-il avec un accent sérieux qui la fit frissonner, « pourquoi n'as-tu pas dit que notre père était mort ?»« Ah, madame !» s'écria Jeanne, douloureusement frappée, « vous lui avez donc appris ?»« Mais non, mademoiselle, » dit Madame de Vivrolles fort surprise, « je ne sais pas comment il aura su. » En réalité, aucune confidence n'avait été faite à Georges au sujet du malheur qui venait de le frapper, et Madame de Vivrolles pouvait à bon droit se montrer étonnée de l'avoir instruit. Mais depuis quelques jours, il avait été si souvent question entre eux de M. Lasséda et de sa fille, qu'un mot échappé par hasard avait fort bien pu révéler à l'enfant sa triste situation d'orphelin. Il avait eu cependant le courage et la fierté de ne pas laisser éclater sa douleur devant ces gens qu'il regardait comme des étrangers, et c'était la nuit seulement que, s'abandonnant à tout son chagrin, il poussait des sanglots déchirants et mouillait son oreiller de ses larmes. « Oui, Georges, » dit Jeanne en levant ses beaux yeux, « notre pauvre père nous a quittés. Tu n'as plus maintenant que moi au monde pour t'aimer et pour prendre soin de toi. » L'enfant se serra en sanglotant contre le sein de la jeune fille. « Je vous serai bien obligée, mademoiselle, de faire retirer cet enfant, » dit au bout de quelques instants une voix sèche qui les rappela à eux-mêmes. « J'ai à causer sérieusement avec vous. » Bien que Madame de Vivrolles n'eût jamais été bien tendre ni bien expansive, elle employait pourtant d'ordinaire pour lui parler des « mon enfant, ma belle chérie, etc. » dit de sa voix ampoulée et qu'elle tâchait de rendre aussi aimable que possible. Jeanne fut étonnée de l'entendre lui parler ainsi et se demanda ce qu'il pouvait bien avoir à lui dire. Néanmoins, pour condescendre à son désir, elle sonna Clara et la pria d'emmener Georges. Quand elles furent seules, « Mademoiselle, » dit Madame de Vivrolles de son ton le plus précieux, et en arrondissant ses boucles blondes avec sa main blanche et potelée, « l'entretien que je vais avoir avec vous sera peut-être un peu pénible, mais il s'agit du bonheur, de l'avenir de mon fils, et mon cœur de mère me fait un devoir de parler. Vous n'ignorez sans doute pas que depuis la mort de M. Lasséda, on a répandu certains bruits. Oh, je dois vous dire tout d'abord que nous les avons repoussés avec énergie, avec indignation. Mais enfin, ce qu'on disait était si grave. » Nous avons dû nous en préoccuper et prendre des renseignements sérieux. Et nous avons malheureusement acquis la conviction que ces bruits n'étaient pas dus à la malveillance et à la calomnie. Monsieur votre père a laissé des affaires fort embrouillées et votre fortune va se trouver sans doute très compromise. Oh, vous pouvez dire, madame, que nous sommes complètement ruinés, répliqua Jeanne simplement. « Oh, je ne pensais pas que le malheur fût si grand, mademoiselle, » fit Madame de Vivrolles en la toisant du haut de sa taille imposante. Il y eut un silence assez long. Jeanne n'osait comprendre où la comtesse voulait en venir, mais elle n'attendit pas longtemps l'explication de ce préambule. « Du vivant de monsieur votre père, » reprit Madame de Vivrolles en jouant avec son lorgnon, il avait été question de certains projets d'union entre nos deux familles. Ces projets nous souriaient fort, mademoiselle, et je n'ai pas besoin de vous dire avec quelle impatience mon fils attendait l'heureux moment où il devait être votre époux. Oh, si n'est-ce pas, sans une vive douleur, croyez-le bien, qu'il a pris la résolution décisive que je suis chargé par lui de vous faire connaître. Oh, n'achevez pas, madame, n'achevez pas, c'est inutile, dit Jeanne, frémissante en se levant soudain. Je comprends ce que vous allez me dire. Votre fils a daigné m'aimer lorsque j'étais riche et heureuse, et aujourd'hui je suis pauvre dans les larmes, il s'éloigne de moi. J'ai entendu dire en effet que de pareilles actions se commettaient quelquefois, mais je ne pensais pas que lui... Oh, j'ai vu tant de choses depuis quelques jours que je vais m'attendre à tout, poursuivit-elle avec une indignation qu'elle ne cherchait plus à contenir. Tout est fini entre nous, madame. Il est inutile que vous restiez plus longtemps chez moi. Elle la congédia d'un geste impérieux. Et comme madame de Virevol restait debout, interdite, la jeune fille revint vers elle et la bravant de son regard courroucé. « Je ne veux plus voir votre fils, » dit-elle d'une voix vibrante. « Je ne le verrai jamais. Dites-lui que je le méprise autant que je l'ai estimé, que je le hais autant que j'ai pu l'aimer. Dites-lui que je ne fais qu'un vœu, c'est qu'il soit un jour aussi malheureux, aussi abandonné que je le suis moi-même en ce moment. Et rendez-lui ceci qui souille ma main. » En disant ces mots, elle jeta au visage de madame de Vivrol sa bague de fiançailles qu'elle avait arrachée de son doigt. « Mademoiselle !» fit la comtesse indignée en faisant un pas vers elle. Mais Jeanne avait couru à une sonnette, et lorsque François entra, elle lui dit, en montrant madame de Vivrol, « Reconduisez, madame, je vous prie. » En même temps, elle disparut en jetant à la comtesse, par-dessus son épaule, un regard d'indicible mépris. Quelques jours après, Jeanne avait loué un petit appartement en haut d'une maison du boulevard de Clichy. Elle n'y avait apporté que peu de meubles, sa chambre de jeune fille, le lit de Georges, et ce qui était absolument indispensable pour vivre. Elle avait congédié ses domestiques, François, le valet de chambre, et Catherine, la cuisinière, qui l'avait quitté les larmes aux yeux, car il l'adorait, en lui disant « C'est pas l'adieu définitif, mademoiselle. Nous sommes bien sûrs qu'un jour viendra où vous serez plus heureuse et vous nous reprendrez. » Seule Clara n'avait absolument pas voulu la quitter. « Je servirai mademoiselle pour rien, s'il le faut, » avait-elle sangloté, lorsque Jeanne lui avait donné son congé, « mais je ne l'abandonnerai pas. » La jeune fille avait dû céder à ses prières et la garder près d'elle. Le jour où elle quitta cet hôtel de la rue d'Offémont, dans lequel elle avait vécu si heureuse, Jeanne éprouva encore une profonde douleur. Elle dit adieu à ce salon où elle avait reçu tant d'amis empressés, qui maintenant, sans doute, quand il la rencontrerait, allait éviter de la saluer, à ce cabinet de travail où, pendant si longtemps, elle avait vu rayonner l'heureuse et douce physionomie de son père, à cette chambre tendue de perse rose qui avait été témoin de ses premiers rêves de jeune fille. Lorsqu'elle sortit de l'hôtel en tenant par la main le petit Georges, il lui sembla qu'une partie d'elle-même était restée dans cette maison à laquelle son cœur était si profondément attaché. Et quand elle se retrouva dans cet appartement exigu auquel on arrivait par un escalier sale et noir, quand elle se vit au milieu de cet entassement de meubles aimés qui maintenant semblait pauvre comme elle, elle eut peine à retenir les larmes qui s'échappaient de ses yeux. Elle se trouvait seule désormais, toute seule au monde, sans un appui sur lequel elle put compter, sans un conseil. Parmi les amis de son père, il n'y en avait qu'un dont elle connut l'inaltérable dévouement. Oh, celui-là assurément ne la trahirait pas, comme l'avaient fait tous les autres, et elle était sûre de trouver en lui l'amitié la plus fidèle. C'était M. Mérantier, ce vieillard qui était venu la trouver un matin, quelques heures avant qu'elle fît cette démarche héroïque pour retrouver le corps de son père et qui avait mêlé ses larmes aux siennes. M. Bérentier était un ancien capitaine au long cours. Il avait fait en Amérique la connaissance de M. Lacéda et lui avait voué une vive affection. Mais le lendemain de l'enterrement, il avait dû partir pour l'étranger et Jeanne se trouvait privée de ses consolations, qui lui auraient été bien précieuses en ce moment, car il connaissait son père de longue date, il l'estimait, et ils auraient pu parler ensemble du cher mort. Cependant, cette faiblesse ne fut que de courte durée. Sa nature si forte et si énergique n'avait pas le courage patient qui se résigne à l'adversité et accepte avec douceur les coups de la destinée. Elle ne craignait pas la lutte et était capable des plus généreux efforts. Le malheur qui venait de frapper sur elle à coups redoublés ne l'avait pas abattue. Elle se sentait de taille à entreprendre cet âpre combat de la vie auquel elle avait été si peu préparée et qui maintenant s'imposait à elle. Elle avait mis en vente tout ce qui avait appartenu à son père, sans exception, ne gardant pour vivre que le prix des diamants laissés par sa mère, soit 20 000 francs. C'était toutes ses ressources. Mais elle travaillerait, et Clara aussi, pour accroître ce revenu si mince et pouvoir continuer l'éducation de Georges. Elle sentait en elle le mal courage du chef de famille sur qui repose l'avenir d'un être chéri. Les déceptions qui venaient de frapper si cruellement son cœur lui avaient appris à ne compter que sur elle-même. Elle avait maintenant pour l'humanité tout entière le profond mépris que ressent une âme supérieure, injustement persécutée. Elle aurait voulu posséder une puissance quelconque, mystérieuse et terrible, pour punir tous ceux par qui elle avait souffert. Les assassins de son père, ces hommes d'argent dont l'égoïsme l'avait repoussée, cet être indigne en qui elle avait placé l'espoir de son cœur et qui venait de la trahir si lâchement, elle les enveloppait tous dans sa colère, dans sa haine. Et elle ne désespérait pas de remplir cette mission grandiose de justice et de légitime vengeance. Au bout de 2 jours, la modeste installation de son petit appartement fut terminée. Elle était certes bien simple, mais cependant, on s'y sentait encore le goût de la Parisienne accoutumée à l'élégance. Aidée de l'intelligente Clara, elle avait tendu sa chambre de perce rose, comme elle l'était autrefois, et avait répandu autour d'elle ces 1000 riens qui donnent la gaieté et la vie. Lorsque tout fut terminé et qu'elle fut chez elle, sa pensée se tourna vers l'être singulier qui lui était apparu aux heures les plus sombres de sa douleur et dont le dévouement l'avait si profondément touchée. Elle n'avait plus maintenant qu'un but dans la vie, se consacrer à la recherche des assassins de son père et venger ce crime abominable. Un matin donc, elle s'assit à son bureau et écrivit une lettre de sa grande écriture rapide et régulière. Elle venait de tracer l'adresse M. Bidache à Clamart, lorsque la sonnette de l'appartement se mit à tinter doucement. 2 minutes après, Clara vint la prévenir qu'un monsieur demandait à lui parler. C'était M. Bidache lui-même, toujours gauche et timide, et dont l'embarras se trouvait encore augmenté par un gros bouquet de fleurs blanches qu'il tenait à la main, enveloppé dans un papier immaculé. C'est moi, mademoiselle, dit-il en saluant à plusieurs reprises et en tournant la tête de tous côtés pour chercher où il pourrait bien mettre son chapeau et sa canne. J'ai été là-bas, mais on m'a dit que vous aviez déménagé. Voici quelques fleurs de mon jardin, des roses de Noël. C'est une espèce que j'ai découverte. Elles sont très précoces. Oh, merci, monsieur Bidache, dit Jeanne, vivement touchée de cette attention. Elle prit les fleurs et les mit dans un vase devant elle. Ensuite, elle fit asseoir le jeune homme et le débarrassa de sa canne et de son chapeau. « Mais je vous écrivais précisément, » dit-elle en lui montant la lettre. Excusez-moi, mademoiselle, si je ne suis pas venu plus tôt, mais d'abord je pensais que vous deviez avoir besoin d'un peu de repos après de si pénibles émotions. Et puis j'avais moi-même certaines recherches à faire. Auriez-vous découvert quelque chose? Puis j'espérais connaître bientôt. Oh, je vais vous dire ce que je sais, mademoiselle. Les indices que j'ai recueillis sont encore un peu vagues, mais c'est un commencement. Ah, oh, monsieur, parlez, dit Jeanne avec animation. Il me tarde tant de savoir. Monsieur Bidache se recueillit un instant, passa la main sur son front chauve, puis commença en ces termes. Le premier point à éclaircir était celui-ci. Pourquoi monsieur Lasséda, riche, heureux d'une conduite exemplaire, a-t-il dû, à un moment donné, louer aux environs de Paris cette petite maison isolée où il a trouvé la mort? À quelle époque l'a-t-il louée? Quelles sont enfin les personnes qui l'y recevaient? Cette troisième question me parut la plus facile à résoudre. J'interrogeais non pas les voisins, car on vous a dit sans doute que cette maison est isolée, au bout du chemin de la forêt, à 50 pas au moins des habitations, mais enfin ceux qui demeuraient dans le rayon le plus rapproché. Je leur demandais s'ils avaient vu des visiteurs s'introduire dans la maison. Je les interrogeais aussi sur les habitudes de monsieur Lasséda. Mais malheureusement, les habitants de cette partie de Clamart sont des paysans peu curieux de leur naturel et qui, pendant les journées d'hiver, ont l'habitude de rester chez eux. Ah, si j'avais eu affaire à de petits bourgeois, à ces flâneurs de village qui observent à travers leurs vitres les allants et venants, mon enquête aurait été bientôt faite. Et alors j'appris seulement que la maison était toujours fermée le matin. Votre père n'y venait que vers 3 heures de l'après-midi et pas tous les jours, assez rarement même. Quant à ceux qui lui rendaient visite, ici M. Bidache hésita, et Jeanne dut l'encourager à continuer. Vous devez tout savoir, mademoiselle, reprit-il avec un peu d'embarras. D'ailleurs, l'honorabilité de M. Lasséda est à l'abri du soupçon. Je le sais, dit-il, en appuyant sur ce mot, ce qui prouvait que son enquête avait été poussée fort loin. Il ne faut pas nous arrêter aux apparences. Eh bien, je dois donc vous dire que peu de jours après que la location de cette maison eût été conclue, une femme, une étrangère, vint trouver vers 4 heures un des habitants de la rue du Chemin Vert, nommé Pierre Joigneau, et lui demanda s'il pourrait lui indiquer où demeurait M. Rodrigue. C'était le nom que monsieur votre père avait pris à Clamart. Une femme? S'écria Jeanne étonnée. Oui, j'ai demandé son signalement, comme bien vous pensez. C'était une personne de haute taille. Quant à ses traits, ils étaient cachés par une épaisse voilette, on ne pouvait les distinguer. Il paraît qu'elle avait un accent étranger. De quel pays? Ah, voilà, ici la difficulté commence. Ce jour-là, Pierre Joigneau avait au coin de son feu deux amis qui étaient venus boire un verre de vin avec lui. Il y avait aussi sa femme. C'est même elle qui a ouvert la porte à l'étrangère. Alors, Pierre Joigneau, qui pendant la guerre a été prisonnier en Allemagne, a trouvé que cette personne avait l'accent allemand. Et sa femme, qui a servi une Anglaise en villégiature à Clamart, pensait qu'elle appartenait plutôt à cette nationalité. Et un des paysans ayant cru reconnaître l'accent gascon, l'autre qui s'était trouvé en relation avec des ouvriers italiens travaillant au chemin de fer, l'avait prise pour une Italienne. Est-elle venue souvent? Deux fois seulement. Du moins, on ne l'a vue que deux fois. Mais je sais pourtant que ces visites ont été plus fréquentes. La seconde fois, elle était accompagnée d'un homme, un grand et fort gaillard. C'est tout ce que j'ai pu savoir sur son compte. Un épais cachelet empêchait de distinguer le visage de cet individu. D'après ces renseignements, si insuffisants qu'ils soient, il est certain que monsieur votre père se cachait en venant à Clamart, puisqu'il y avait pris un nom d'emprunt. Il est certain aussi que ces deux mystérieux visiteurs ne voulaient pas être reconnus et dissimulaient leurs traits. Cette observation me mena à découvrir un autre fait. J'avais remarqué qu'on n'avait trouvé sur M. Lasséna aucun billet de chemin de fer délivré pour le retour. Par conséquent, il ne devait probablement pas venir à Clamart par le train. Et cela sans doute dans le but de mieux se cacher et d'éviter d'être suivi. Alors je voulus vérifier l'exactitude de cette remarque. J'interrogeai le cocher du coupé que M. votre père prenait ordinairement pour faire ses courses. Mais il me dit qu'il ne l'avait jamais mené à Clamart. Bon, je ne me tins pas pour battu. Je me rendis à la station de fiacre qui se trouve avenue de Villiers, près de la rue d'Offémont, et je questionnai les cochers. L'un d'eux me dit qu'en effet, un monsieur, dont le signalement répondait parfaitement à celui de monsieur votre père, l'avait pris plusieurs fois pour le conduire à Clamart. Et voyez, mademoiselle, ajouta M. Bidache, qui semblait prendre un extrême plaisir à exposer le résultat de ses recherches, voyez comme on a raison, dans ces sortes d'affaires, de ne pas négliger les plus petites observations. Il se trouva que ce cocher était un homme d'ordre qui écrivait chaque jour ses recettes. Or, comme M. Lasséna lui donnait toujours un bon prix pour cette longue course, il retrouva facilement, sur son livre, les dates de ces journées exceptionnelles. Monsieur votre père a été 6 fois seulement à Clamart. La première fois le 12 septembre, puis le 28 du même mois, le 8 octobre, le 30 octobre, le 15 novembre et enfin le 23 novembre. Il donnait l'ordre au cocher d'attendre à environ 1 kilomètre de la maison, au milieu d'un petit bois. Il faisait le trajet à pied pour venir rue du Chemin Vert, puis à la nuit, il allait rejoindre sa voiture. Il partait généralement vers 6 heures. En présence de ces précautions minutieuses prises pour dissimuler son nom et son véritable domicile, étant donné d'un autre côté que ses voyages avaient pour but de se retrouver à Clamart avec 1 ou 2 personnes prévenues d'avance, une réflexion bien simple devait se présenter à l'esprit. Quel moyen employer M. Lasséna pour se concerter avec ces personnes? Car il faut admettre que les rendez-vous pouvaient tout aussi bien être donnés par elles que par lui. Évidemment, on n'échangeait pas de lettres, puisque c'était surtout à des visiteurs que M. Lasséna rendait souvent, semblait vouloir cacher son nom et sa véritable adresse. Oh, alors possesseur de correspondance, il n'existe qu'un moyen, la voie des journaux. Il fallait donc rechercher dans les journaux qui ont la spécialité de ce genre d'annonces, et aux environs des dates indiquées tout à l'heure, la trace des rendez-vous fixés entre ces inconnus et monsieur votre père. Je consultai les petites affiches, le Gaulois et le Figaro. À la date du 2 septembre, je vis ce que je vais vous lire à la 4e page de ce dernier journal. M. Bidache tira plusieurs notes de sa poche et lut. Johanna, jeudi prochain à Clamart, rue du Chemin Vert, je vous verrai. Rodrigue. Est-il possible ? S'écria Jeanne, émerveillée de la façon très simple et très logique dont M. Bidache avait fait cette découverte importante. « Vous avez trouvé cela ? Oh, ce n'est pas tout, mademoiselle. Oh, continuez, j'éprouve une émotion en vous écoutant. » Donc je remontais plus loin dans la collection du journal, car la note insérée par M. Lasséna répondait évidemment à une communication antérieure que lui avait faite cette Johanna. Je feuilletais donc le journal, examinant scrupuleusement toutes les annonces. J'arrivais ainsi rapidement aux origines de cette correspondance que je vais vous faire connaître maintenant tout entière, en commençant par la première note. Cette première insertion est le 20 juin. Elle est ainsi conçue. Rodriguez. Quelqu'un que vous avez connu à Buenos Aires a besoin urgent de vous voir. indiquait rendez-vous. Pas de signature. Probablement cette note échappa à l'attention de M. Lasséna, ou bien il n'y voulut pas répondre, car 8 jours après, le 28 juin, je trouve cette seconde annerce. Rodriguez, suis à Paris, ai besoin de vous voir absolument, répondez Juana. Et comme aucune réponse n'intervient, la note est répétée 3 fois de suite, les 6, 15 et 25 juillet. Enfin, le 3 août, la rédaction change, ainsi que vous allez le voir. Rodriguez, je suis très malheureuse. Ayez pitié, souvenez-vous, Buenos Aires, Juana. Même insertion le 13 août. Enfin, le 25 août, cette nouvelle note plus impérieuse. Rodriguez, trop malheureuse, suis décidée à tout, prenez garde, Juana. Et c'est à cette mise en demeure menaçante que M. Lasséna a enfin répondu. Juana, jeudi prochain à Clamart, rue du Chemin Vert, je vous verrai, Rodriguez. Maintenant, voici la suite de la correspondance, coïncidente avec les dates dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui m'ont été données par le cocher. Le 20 septembre. Juana, venez samedi prochain, Clamart, Rodriguez. Le 6 octobre. Communication urgente, serait mardi, Clamart, Juana. Le 28 du même mois. Et réfléchis, impossible, vous direz pourquoi mercredi, Rodriguez. Le 13 novembre, je ferai ce que vous voudrez, mais veux vous voir vendredi, Juana. Enfin, la dernière note, celle qui apparut avant ce fatal rendez-vous où votre malheureux père a trouvé la mort, est datée du 21 et ainsi conçue. Je consens, mais ce sera la dernière fois, Rodriguez. Monsieur Bidache remit avec soin ses notes dans sa poche. Il y eut entre eux un silence de quelques instants. Jeanne, absorbée par ce qu'elle venait d'entendre, étonnée de savoir qu'il y avait dans l'existence de son père un mystère impénétrable, restait pensive et silencieuse. Enfin, s'adressant à M. Bidache, « Tout cela est bien étrange, dit-elle, et je ne suis vraiment, je ne sais pas si je rêve. » De cet ensemble de faits, de preuves découvertes par votre merveilleuse sagacité, pouvez-vous, monsieur, tirer quelques conclusions immédiates concernant le mobile du crime ? Oh oui, assurément, affirma M. Bidache. Il raconta aussitôt à la jeune fille comment, en prenant un déguisement, il avait entendu des explications données par l'employé de la Banque de France à M. Avenot. Et comment ensuite il était venu constater par lui-même, dans les bureaux, qu'aucun des commis ne répondait au signalement par lequel François avait désigné l'homme qui s'était introduit rue d'Offémont pour forcer le coffre-fort de M. Lasséna. Mais pourquoi prendre un déguisement ? Demanda Jeanne. M. Ravenoux vous aurait donné volontiers ses renseignements. Oui, cela est vrai, mademoiselle, mais à ce moment, je ne connaissais pas ce respectable employé comme je le connais maintenant. Je n'étais pas fâché de le surveiller et d'agir en dehors de lui. Dame, vous savez, depuis quelque temps, les caissiers ont une si mauvaise réputation. Oh, monsieur, pouvez-vous soupçonner monsieur Ravenot ? Non, je vous répète, mademoiselle, que je n'avais pas l'honneur de le connaître, et dans notre métier, nous sommes très défiants. Il reprit après une courte pause. Bon, pour me résumer, voici ce qui, dans cette difficile et mystérieuse affaire, me semble dès à présent bien établi. D'après une note retrouvée par M. Ravenot, dans les papiers de M. votre père et datée du 1er novembre, la fortune de M. Lasséna devait s'élever à 1200 000 francs environ. Je n'ai pas besoin de vous donner la composition des valeurs, n'est-ce pas ? M. Ravenot est sûr d'avoir vu les titres dans le coffre-fort de M. votre père vers le 10 novembre. Or, depuis, M. Lasséna a liquidé toutes ses valeurs et pour plus de sûreté, il a placé les fonds à la Banque de France où étaient déjà déposées les sommes versées par les clients et s'élevant à un total de 1300 000 francs. Et alors pourquoi a-t-il pris au sujet de sa fortune personnelle cette mesure de précaution qui a été peut-être la cause de sa perte? Ici, une hypothèse se présente naturellement à l'esprit. Vous vous rappelez que le coffre-fort portait la trace d'une tentative d'effraction. Votre père a remarqué cette trace suspecte, et dans la crainte que ces tentatives criminelles ne se renouvellent, il a pris le parti de liquider sa fortune et de la placer en compte courant à la banque pour quelque temps. Je puis affirmer que les rayures laissées sur le fer du coffre par la pince Monseigneur ne lui ont pas échappé. Car j'ai questionné de nouveau hier François à ce sujet, et il m'a parfaitement dit que son ancien maître lui avait demandé un jour si en son absence personne n'était venu. François lui fit la réponse qu'il nous a faite à nous-mêmes, vous vous en souvenez. Il dit qu'un des employés de M. Ravenot était entré dans le cabinet pour chercher quelques papiers. « C'est bien, répliqua vivement M. Lasséna. Dorénavant, quand je n'y serai pas, ne laissez pénétrer ici personne sous quelque prétexte que ce soit. Donc, il est un premier fait certain. C'est que ce soi-disant employé, ce criminel, est entré chez M. Lasséna avec l'intention de dérober les valeurs. Il n'a pas réussi dans sa tentative, car si le coffre-fort porte des traces d'effraction, il est certain que cette effraction n'a pas été consommée. Il a appris alors, oh comment je n'en sais rien, que la fortune de monsieur votre père était à la Banque de France. Il l'a attiré dans un guet-apens, l'a assassiné, lui a volé son carnet de chèques et a été touché l'énorme somme de 2 500 000 francs. Or, nous savons que l'homme qui a tenté d'ouvrir le coffre-fort et celui qui a assassiné M. Lasséna sont un seul et même personnage. En effet, François nous a dit que cet individu avait l'apparence d'un ancien marin. Et vous vous rappelez que la cordelette qui entourait l'instrument du crime était sertie par un nœud que les marins seuls peuvent faire. Voilà ce qui me semble établi mieux que par de pures hypothèses. Maintenant, quel est l'assassin? D'où vient l'intervention dans tout ceci d'une femme nommée Ruana? Qu'est devenue la somme volée? Quelle relation existait entre ces misérables et votre pauvre père? Autant de points fort obscurs. Et je vous avoue qu'arrivé à cette phase de l'enquête, je me sens arrêté par un insurmontable obstacle. Je ne sais plus de quel coton codé continue mes recherches, et le fil que je tenais se rompt brusquement. Il y a quelqu'un qui pourrait peut-être nous donner des renseignements précieux, dit Jeanne après un silence. C'est un ancien ami de mon père, qu'il a connu autrefois en Amérique, M. Mérantier. Oh, assurément, s'écria M. Bidache, dont la figure s'éclaira. Oh, il faut le consulter sans retard. Malheureusement, il est absent, reprit Jeanne. Il voyage pour ses affaires et je crois qu'il a dû partir pour la Russie. Et il reviendra, oh, je l'ignore, ses voyages sont longs d'ordinaire. Il reste peu de temps dans chaque ville. Néanmoins, je vais lui écrire aujourd'hui même pour lui demander de venir me parler à son retour. Puis après un instant de réflexion, la justice est-elle saisie de cette affaire? Reprit Jeanne. Cherche-t-elle de son côté? Lui avez-vous fait part de ces précieuses indications? La justice, répliqua M. Bidache avec un sourire un peu dédaigneux, la justice s'en est rapportée au procès verbal de M. le commissaire de police de Clamart. On a trouvé 37 francs 50 dans un tiroir, donc c'est pas un voleur qui a tué. Comme si un homme qui vole plus de 2 millions allait s'occuper de cette misère. Puis on a rapproché la mort de votre malheureux père de l'état embarrassé de ses affaires et on a conclu, faut-il le dire, on a conclu au suicide. « Mais c'est une infamie !» s'écria Jeanne avec indignation. « Mais l'affaire est classée sous cette rubrique au parquet de la Seine, m'en suis assuré. Quoi, cette abominable accusation, la justice l'a acceptée. Il y avait pourtant un témoin qu'ils auraient bien dû consulter, dit Monsieur Bidache avec douceur. Cette main sanglante tracée sur la porte. Il est vrai que dès le lendemain, les propriétaires de la maison ont lavé toutes les traces de sang. Mais moi, j'avais eu soin d'en prendre la mesure. Ah, oh, monsieur, que serais-je devenu si je ne vous avais pas rencontré ? S'écria Jeanne avec émotion. Vous serez le vengeur de mon père. Mais je veux vous aider, reprit-elle, tout enthousiasmée par ce qu'elle venait d'entendre. Oui, il ne faut pas que vous poursuiviez tout seul cette tâche difficile. Ces recherches, je vais les faire avec vous. Je vous seconderai de toute mon ardeur. Vous savez que je suis courageuse. Rien ne m'arrêtera pour venger mon père. Monsieur Bidache la regarda fixement, et un éclair jaillit à travers ses lunettes. Une femme, murmura-t-il, comme en se parlant à lui-même, une femme comme auxiliaire. Oui, dans certaines circonstances, cela pourrait être précieux. Eh bien, mademoiselle, reprit-il tout haut, j'accepte l'offre que vous me faites. À l'œuvre donc, Paris est grand et ceux à qui nous avons affaire doivent être bien forts et bien audacieux. Et pourtant, la lutte ne me fait pas peur. À nous deux, je vous le jure, nous réussirons. Veuillez attendre quelques jours, bientôt, je vous le promets, vous aurez de mes nouvelles. Et retrouvant son assurance, comme cela lui arrivait souvent, et même toujours lorsqu'il était emporté par l'ardeur de sa passion dominante, M. Bidache s'avança vers la jeune fille, et scella par une vigoureuse poignée de main le pacte qu'il venait de conclure. Fin de la première partie.